Radio Live du Livre Drame,
un parc d'attractions littéraires
unique en France,
fait par nous
et pour nous.
C'est qui nous ?
Pas des ados.
Les 18 et 19 juin 2024 à la gare Saint-Sauveur à Lille
et sur Radio Moulin.
Oui, nous revoilà ici en direct avec le Vélo Radio et nous recevons Fabrice Collin maintenant pour notre dernière interview de la journée. Bonjour.
Bonjour.
Alors Fabrice Collin, je me suis inspirée de Wikipédia pour vous présenter. Donc vous êtes écrivain, né à Paris en 1972. D'abord connu pour ses livres qui relèvent des littératures imaginaires, fantasy, science-fiction, avant d'élargir vers le polar, la BD, en tant que scénariste.
Exact.
Alors vous écrivez pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes, hein,
ouais.
C'est ça ?
Ouais, je fais les deux.
D'accord, et vous faites l'un puis l'autre ou des allers-retours ?
J'alterne.
D'accord. Ouais. Et vous avez à votre actif de nombreux romans, je voulais les compter, mais il y avait trop de lignes.
Ah non, on ne peut pas les compter.
Il y en avait vraiment
moi, je
beaucoup.
Sais pas.
C'est vrai,
ouais,
vous avez
ouais.
perdu le compte.
Ouais.
Parce qu'il y a des romans, mais il y a aussi des nouvelles,
ouais.
donc des BD en tant que scénariste, des albums.
Ouais.
Et j'ai même vu des pièces radiophoniques.
Oui.
Ouais, ce
ouais.
qui m'a beaucoup intéressé.
Ouais, ouais, ouais.
C'était quoi ces pièces radio ?
Alors, c'est une tradition sur France Inter et France Culture. C'est des pièces de théâtre, mais audio, quoi. C'est-à-dire mm-hmm. qu'il y a des acteurs, hein, il y a des gens, même des fois, de la Comédie Française, etc. Mais qui lisent le texte. Alors, on les voit pas, mais on imagine. Et il y a des bruitages, quoi.
D'accord, génial. Bah, j'espère qu'on pourra en écouter une à l'occasion. Alors, comme vous êtes le dernier interview de la journée, on s'est un petit peu lâché avec les élèves. Et ce qu'on a préparé, on a ici Nolwenn, pardon, je vous présente Léa, Lucas. Et puis on a Milan qui clôturera l'interview, qui est en impro total. Et avec Nolwenn, Léa et Lucas, c'est un petit jeu en fait où ils ont chacun des questions qui évoquent différents domaines de l'écriture, l'inspiration, la méthodologie et votre parcours personnel. Et le petit jeu, c'est tout simplement qu'ils vont passer leurs doigts sur la feuille et quand vous êtes prêt, vous dites stop,
ouais.
quand vous le sentez, et vous aurez une question surprise. Et on verra si ça marche.
Allez,
allez, c'est parti alors. Nolwenn, tu peux commencer.
Stop.
Aimiez-vous lire à l'adolescence ?
Alors, on a tendance à dire que la plupart des écrivains sont d'abord des lecteurs. Il y en a qui contredisent cette affirmation. Moi, je ne lisais pas quand j'étais ado. Moi, je ne vais pas dire ça. Moi, je lisais. Je lisais beaucoup. J'ai toujours beaucoup lu. C'est vrai que l'adolescence, ce n'est pas forcément le moment de la vie où on lit le plus. Mais moi, je m'intéressais à la science-fiction, la fantasy, etc. Et j'avais un vrai appétit de lire. Je ne lisais que dans ce domaine-là, en revanche. Il ne fallait pas me donner autre chose.
Et vous avez une œuvre en partie? Pardon, vous avez une œuvre en particulier que vous pourriez
citer ? Je parlais tout à l'heure dans un atelier d'écriture. Je disais, moi, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'avais 14 ans. Et quand on tombe là-dedans, c'était avant les films. Hein, c'est vraiment des gros livres qui ne sont pas évidents à lire. Mais quand vous vous mettez à lire ça à 14 ans et que vous êtes immergé, etc. Après, c'est un bouquin qui a changé ma vie. Alors, c'est très banal comme lecture,
ouais.
pour la fantasy en tout cas. Ensuite, j'ai lu plein de livres de science-fiction, etc. Et les goûts se sont étendus un petit peu comme en musique. Si vous écoutez un type de musique quand vous avez 15 ans, et puis je sais pas, du rap, vous passez au jazz, et puis au blues, et puis au rock, puis au classique, puis à la fin vous écoutez tout. Bah, moi en littérature, c'est un peu pareil.
Génial, merci. Du coup, Léa, on repart pour le petit jeu ?
Allez, stop !
Comment avez-vous imaginé votre livre ?
Alors, on parle de Monstre 13, ça, de
ouais,
la bande
dessinée. Oui, c'est peut-être votre dernier livre qui est
ouais.
là. Hein.
Ouais, ouais. En fait, c'est un peu particulier ce livre, hein, parce que il y avait un éditeur, en l'occurrence Albin Michel, et qui travaillait avec un garçon qui s'appelle Nicolas Itoride, et qui lui voulait faire un livre sur le folklore chinois, les monstres, etc., dans le quartier où il avait vécu, c'est-à-dire Chinatown, Paris, 13e arrondissement. Mais il avait juste cette idée-là, il savait qu'il voulait des monstres, mais il ne savait pas comment fabriquer son histoire, quoi. Donc ce n'est pas un livre de commande, mais c'est un livre où on m'a un petit peu appelé à l'aide en disant on a besoin de quelqu'un qui donne forme à l'imaginaire de l'illustrateur. Donc c'est comme ça que c'est né. Donc l'idée originelle, disons, de marier la modernité et puis le folklore chinois, elle ne vient pas de moi, mais toute l'histoire, après l'histoire de médium et de portes à fermer, etc., ça, c'est moi qui ai inventé ça. Quoi.
Et vous y connaissiez déjà en folklore chinois ?
Non, je m'y connaissais en Chinatown, Paris 13, parce que ce n'est pas très très loin de chez moi. Moi, j'habite dans le 12e arrondissement.
Okay.
Et les Parisiens, c'est un coin qu'ils connaissent sans vraiment le connaître. C'est-à-dire que eux ils y vont parce qu'il y a plein de restaurants chinois et c'est sympa, mais à côté de ça il y a des temples par exemple, moi j'ai découvert ça, il y a des petits temples chinois cachés dans des parkings ou des choses comme ça, il y a tout un monde souterrain que là moi j'ai appris à connaître parce que j'ai fait un petit peu des recherches, quoi.
Génial, merci. Du coup Lucas, c'est parti pour le petit doigt. Non.
Stop.
Est-ce que vous viviez de la vente de vos livres ?
Non, c'est au présent. Est-ce que vous vivez ?
Ouais. Bah, j'en vivais. Oui, j'en vis. Alors, pour plusieurs raisons, j'en ai pas vécu tout de suite. C'est pas évident de vivre de la vente de ces livres. Soit on a un gros succès, mais ça, on peut pas le décider parce que sinon, on déciderait tous d'avoir un gros succès. Soit on s'est accroché, ça fait longtemps qu'on en fait. On a quand même sur le nombre de livres qu'on a fait, on en a qui ont marché. Et puis surtout, comme ça fait longtemps qu'on en écrit, il y a des livres qui continuent parfois à se vendre. Moi, c'est mon cas. C'est-à-dire que j'ai des livres que j'ai écrits il y a 10 ou 15 ans qui sont ce qu'on appelle prescrits dans les établissements scolaires. C'est-à-dire qu'ils sont toujours lus dans les collèges, etc. Et donc, ils continuent à se vendre. Et plus on a de livres comme ça qui sont accumulés, et si on en a qui ont le bonheur de continuer à se vendre, forcément... ça va plutôt vers le meilleur. Quoi.
C'est le top pour un auteur, j'imagine. Ouais. Alors, Nalouen.
Stop.
Avez-vous un style particulier de dédicace ?
Ah, c'est, on m'a jamais posé cette question.
Ça, c'est pointu, ça.
Ouais, c'est une bonne question. En fait, moi, quand je dédicace des BD ou des albums, je suis un peu triste parce que moi, je n'ai pas dessiné. Quoi. Alors, les autres, ils ont un avantage sur moi. C'est-à-dire qu'eux, c'est vrai qu'on préfère avoir une dédicace avec un dessin sous dans une BD. Donc, le scénariste, c'est un peu le parent pauvre. C'est celui qui arrive derrière en disant « oui, bon, amitié, etc. Bon. » En général, j'essaye de trouver une phrase qui a un rapport avec l'univers du livre. Quoi. Alors, ce qu'on fait beaucoup, parce que si on met juste amicalement, ou ça, c'est un peu triste. Donc, on essaye de trouver quelque chose qui fait allusion au livre, tout en se rappelant que le lecteur, normalement, il ne l'a pas encore lu, le bouquin. Enfin, il y a des gens qui ont déjà lu des livres et qui veulent juste un souvenir, etc. Mais il ne faut pas non plus donc, spoiler le livre en disant « ne sois pas trop triste quand machin va mourir si on ne le sait pas, c'est embêtant. » Ouais.
C'est tout un art, hein, la dédicace, apparemment, de se renouveler, surtout quand
surtout quand il y a 50 personnes à la suite. Et tout,
c'est un peu l'abattage. Ouais. Léa, tu nous refais une petite question ?
Stop.
Aimez-vous écrire ?
j'aime écrire heureusement parce que je fais ça une bonne partie de la journée, même si c'est pas mon activité à 100%.
Vous arrivez à faire encore autre chose ?
Ouais, mais en fait c'est toujours lié à l'écriture, c'est-à-dire que j'écris sur les livres des autres, enfin où je lis ou je réécris des livres d'autres personnes aussi, mais donc c'est toujours quand même lié à l'écriture. Mais alors il y a des moments qui sont quand même plus marrants que d'autres. Il y a des moments où on se dit waouh, qu'est-ce que je suis content de faire ça, on est dans une super scène, on a une vraie jubilation de l'écriture. Il y a des moments où c'est plus compliqué parce que il y a des choses qui nous donnent du fil à retordre et on se dit vivement que ça s'arrête. Mais globalement, je suis très très content de faire ce métier-là. Et comme disait je sais plus qui, quand on fait vraiment ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Quoi.
Même si on passe des heures derrière son ordinateur.
Exactement.
Alors Lucas, une autre petite question.
Stop.
Aimeriez-vous que votre livre soit adapté en film, au théâtre ou en BD ?
Alors, j'ai déjà des livres qui ont été adaptés en BD. Alors, parfois, c'est moi qui les adapte moi-même. J'ai un roman et une bande dessinée qui sont en voie d'adaptation. C'est pas encore fait, donc c'est peut-être un rêve qui va se réaliser. C'est assez intéressant d'écrire quelque chose et de voir que ça va devenir autre chose. Parce que quand quelqu'un va adapter votre livre ou votre bande dessinée, par exemple en film ou en série ou en pièce de théâtre, il va s'en emparer. C'est-à-dire qu'il va, prendre ce que vous avez fait, mais il va en avoir une autre vision que vous l'aviez en l'écrivant. Et il va en faire autre chose. Donc parfois, il y a des gens qui sont un peu surpris par le résultat que ça peut donner. Et on est quand même un petit peu consulté au départ. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire non, en vérité. Alors c'est assez rare, hein, les gens qui disent non. Mais disons qu'on a ce truc de d'être un peu dans l'expectative. On se dit qu'est-ce qu'ils vont faire de mon idée, et puis est-ce qu'ils ont compris les choses comme je les ai écrites, quoi.
Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Et Milan, est-ce que tu veux nous dire ta question?
Alors moi j'avais une question, qu'est-ce qui vous a donné l'inspiration pour votre BD Monstre 13?
Alors, on l'a un peu posé la question, mais moi ce qui m'a, enfin, comment dire, pourquoi j'ai accepté, mais parce que cet endroit il me fascine en fait, le 13e arrondissement de Paris, Chinatown, il y en a dans des grandes villes, hein, européennes, américaines, etc. C'est une communauté qui est assez secrète, c'est-à-dire que il n'y a pas vraiment d'autres équivalents. Il y a des Indiatown des fois dans certaines villes comme Singapour où je suis allé, mais Chinatown, il y a plein de villes où il y en a parce que les Chinois migrent dans des pays comme ça et reconstituent pratiquement presque une petite ville chinoise à l'intérieur d'une plus grande ville, et ils parlent chinois entre eux et ils règlent tous leurs problèmes entre eux. C'est-à-dire que Ma femme, par exemple, qui a travaillé à Pôle emploi, elle me dit « Je vois jamais de Chinois à Pôle emploi, ils ne cherchent pas de travail. » Ce n'est pas qu'ils cherchent pas de travail, mais ils le trouvent entre eux, quoi. Ils ont leurs petits secrets, quoi. C'est-à-dire notamment ces temples. Si vous ne savez pas où les trouver, enfin où les chercher, vous ne les trouverez pas par hasard. Donc, il y a un monde à l'intérieur d'un monde. Ça, c'est une première chose. Et puis ce que je ne connaissais pas, sur quoi je me suis documenté, c'est tout le folklore des monstres chinois. Et là, il y en a des milliers. Donc dans le livre, il y en a 13 qui apparaissent, mais en vérité, il y en a beaucoup plus.
Ou sinon aussi l'inspiration pour vos personnages.
Alors ça, c'est très variable. C'est suivant les romans, les BD, etc. Mais il arrive quand même que je m'inspire de mon entourage, mais je ne vais jamais prendre une personne telle qu'elle. Je vais dire... un tel, mon personnage que j'ai en tête, physiquement ça pourrait être machin, psychologiquement il pourrait avoir les traits de caractère de Bidule, ou il pourrait avoir une partie de son histoire qui ressemble à telle autre personne, mais je vais jamais décalquer un personnage de la vie réelle tel quel dans un roman. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens de toute façon ne se reconnaissent pas dans les romans, c'est-à-dire que même si je prenais quelqu'un, j'aurais de toute façon mon interprétation et j'oublierais certaines choses. Et ça m'est déjà arrivé de m'inspirer très fortement de quelqu'un. Et il lit le bouquin et il dit « Ouais, super ce personnage. » Je dis « Mais en fait, c'est toi. » Mais je lui dis pas. Mais, ouais,
c'est vrai.
Mais les gens ne se reconnaissent pas, quoi.
C'est rigolo, ça. Il n'y en a pas, le contraire, qui se reconnaissent quand ce n'est pas eux, qui croient se
reconnaître. Ça m'est pas arrivé, mais ça peut poser problème à certains auteurs, quoi.
Ouais. Est-ce que vous avez encore des questions qui vous viennent? C'est bon? Alors je vois que l'heure tourne, hein, qu'il est déjà 17h sur le Livre-Drome, sur Radio Moulin. Je pense qu'on va clôturer. Un grand merci à vous.
Merci à vous.
D'avoir pris le temps et d'avoir joué le jeu de cette interview surprise avec des questions qui marchaient bien et d'autres plus étonnantes, mais auxquelles vous avez su répondre malgré tout. Et bravo à tous, merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Radio Live du Livre-Drome, un parc d'attractions littéraires unique en France. Fait par nous et pour nous.
C'est qui nous?
Pas les ados.
Les 18 et 19 juin 2024 à la gare Saint-Sauveur à Lille.
Et sur Radio Moulin.